vraiment une sorte de mémoire, d'au-delà de la mémoire. Mais ces grands coups de sonde que constitue l'acte poétique, c'est ça que ça fait remonter à la surface, en réalité. Certains motifs, le naufrage, le voyage marin. Eh bien, je m'en suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps, c'est qu'il y a vraiment pour moi ce traumatisme provoqué par la traite des Noirs.
Histoire 2.
Je ressens, presque comme ça de hoquet, ce sentiment de déracinement, de séparation d'avec quelque chose. Et la traite des Noirs, c'est une chose qui est pour moi un événement extrêmement important et je dirais presque vécu.
Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'avez entendu ? C'est Aimé Césaire, le grand poète de la négritude, mais aussi le critique implacable de l'humanisme du siècle des Lumières. Dans son discours sur le colonialisme, déjà, nous étions en 1955, il lui faisait reproche d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme. Pourquoi ? Mais vous le savez bien, parce qu'il s'est accommodé si bien de l'esclavage. Comment en raconter l'histoire aujourd'hui ? Et surtout, comment redonner voix à ceux qui l'ont perdu ? Grimoire fermé, mots oubliés, j'interroge mon passé muet. Je cite encore Césaire, et c'est un poème, dit d'Hérence, qui est, je crois, cher au cœur de notre invité, l'écrivain David Diop, en duplex des studios de France Bleu Béarn. Dans son dernier livre, La porte du voyage sans retour, il ouvre le grimoire en grand, celle de notre histoire, toute notre histoire. Et alors, le passé ne se fait plus muet. Voici revenir l'histoire comme on l'aime dans cette émission. Une histoire en grand, qui ne célèbre pas plus qu'elle n'accuse, mais s'interroge, nous interroge, sur les ambivalences de notre modernité. Et puisque, à Histoire 2, on aime décidément les récits, c'est la question des récits de l'esclavage qui nous réunira aujourd'hui, lorsque, dans la deuxième partie de l'émission, viendront nous rejoindre nos deux sociétaires du jour, Adila Benedjaizou et Paulin Ismar, pour poser la seule question qui vaille dès lors qu'on se porte à la hauteur de l'expérience humaine des esclaves eux-mêmes, qui racontera leur histoire. David Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la littérature française du XVIIIe siècle à l'université de Pau. Vous avez beaucoup publié sur l'Afrique dans les discours savants du siècle des Lumières. Mais c'est d'abord comme romancier que le grand public a appris à vous connaître. Paru en 2018 aux éditions du Seuil, Frère d'armes a reçu le prix Goncourt des lycéens, ce qui n'est pas rien, et ses traductions de nombreux prix internationaux, et récemment le Booker Prize. Et vous venez de publier, toujours aux éditions du Seuil, La porte du voyage sans retour. Vous y plantez votre prose romanesque dans l'histoire, mais ce n'est pas la même histoire. Parce que dans Frères d'armes, on voyait la France de la Première Guerre mondiale depuis le point de vue des tirailleurs sénégalais. C'était d'ailleurs aussi le cas de votre premier roman, paru en 2012 à l'Harmattan, 1889, L'attraction universelle, où on était toujours avec une délégation sénégalaise à l'exposition universelle. Et là, vous nous proposez le voyage inverse.
Oui, c'est ça. Dans Frères d'âme, je laisse la possibilité au lecteur de surprendre la voix intérieure d'un tirailleur sénégalais qui perd la raison sur le champ de bataille, un champ de bataille indéterminé, mais en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Et là, dans La porte du voyage sans retour, j'aborde, si vous voulez, les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire que je fais venir un naturaliste qui est Michel Adanson, qui a véritablement existé au Sénégal. Son voyage est également réel puisqu'il a écrit un voyage au Sénégal qui date de 1757. Donc, à partir des données que j'ai pu trouver autour de ce voyage, j'ai inventé un voyage secret au Sénégal.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a un voyage, le voyage réel, celui qui est documenté de ce jeune botaniste de 23 ans, et le voyage secret qui le dédouble ou qui le hante d'une certaine manière, c'est le fait que Michel Adanson part à la recherche d'une mystérieuse jeune femme, Mayam. C'est une revenante, en somme.
Voilà, c'est Maram qui, dont il entend parler pendant une veillée nocturne dans un village qui est tout près de Saint-Louis du Sénégal qui s'appelle Sor, et il entend parler de Maram qui serait revenue d'esclavage d'au-delà les mers. Ça le trouble, ça l'interpelle et il décide avec Ndiak, qui est son passeur ou son passeport, on va dire, avec ce Ndiak, ils vont aller jusqu'à ce village de Ben où serait cette marin pour essayer de l'entendre raconter son histoire.
En langue wolof, parce que c'est aussi une aventure de langue que votre roman, David Diop, Ndiak apprend à Michel Adanson le wolof. Et au fond, si Michel Adanson est traversé par un flux de conscience, c'est parce que elle se dit dans une autre langue que la sienne. Je vous cite, « Je n'étais plus tout à fait blanc à force de parler le wolof ».
C'est un phénomène qui m'a été inspiré par un voyageur en italien en Angola au XVIe siècle qui s'appelle Cavazzi. Et qui, à force de rester en Angola et de parler les langues locales, prétend ne plus savoir parler italien. Donc, je me suis dit qu'il y avait une imprégnation par la langue qui faisait que il y avait une infusion dans ce personnage des croyances qui étaient absolument, ou de représentations du monde qui sont absolument étrangères à son monde des Lumières. Et j'ai voulu que la langue wolof soit un personnage à part entière et que cette langue finalement soit associée à son aventure.
On peut d'ailleurs aussi évoquer ici le travail d'un historien sénégalais, Ousmane Seydi, qui a étudié les brouillons de Michel Adanson dans les archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et notamment son manuscrit du dictionnaire français Wolof. Donc là, on est dans un rapport colonial inversé, si j'ose dire. Ce sont les historiens sénégalais qui ont découvert quelque chose d'essentiel sur le savoir des Lumières.
Alors, ce qui est intéressant avec Ousmane Seydi, c'est que ce n'est pas le premier à découvrir les cartons où sont rassemblés les papiers de Michel Adanson. C'est un des premiers à pouvoir en déchiffrer une partie. Parce que Michel Adanson a traduit des contes, des légendes wolof dans les villages qu'il a traversés. Ça, c'est vraiment aussi une donnée historique. Et ces documents où il traduit ses contes, ses légendes, il le retranscrit, il a même ouvert un gris-gris pour déployer l'intérieur du gris-gris et finalement transcrire ce qu'il y avait écrit dedans. Tout ça, ça pouvait être traité évidemment par des historiens français, mais l'avantage d'Ousmane Seydi, c'est qu'il parle le wolof et qu'il le comprend parfaitement. Donc, comme Michel Adanson a transcrit ces choses-là, pour l'histoire culturelle du Sénégal, c'est assez extraordinaire.
Alors, pour les lecteurs qui ont déjà lu Frères d'armes, vous allez retrouver une autre violence coloniale, parce qu'elle n'est pas aussi directe, aussi brutale que dans cette histoire des tirailleurs sénégalais. Elle est, disons, plus sournoise, plus pernicieuse, parce qu'elle est mue par, on l'a compris en vous écoutant, David Diop, l'extraordinaire curiosité, l'amour des détails, c'est peut-être ça qui le sauve. Et c'est de cela dont on aura à parler dans la seconde partie de l'émission. Est-ce qu'au fond, cet humanisme des Lumières suffit à Michel Adanson pour être voilà ce qu'il espère être, cet homme exceptionnel et qui n'est pas de la race des oppresseurs, de celles qu'il aime? Comment vous le voyez, votre personnage? Est-ce que vous pensez que son savoir qu'il accumule peut être désintéressé? Ou est-ce que vous pensez que c'est votre personnage, Maram, qui dit la vérité sur lui lorsqu'elle lui dit « Ignorez-vous que la concession, c'est-à-dire les négriers, compte très certainement tirer profit de vos observations. Soit vous êtes naïf, soit vous êtes de mauvaise foi. » Alors Adanson, il est naïf ou il est de mauvaise foi?
Le véritable Michel Adanson n'était pas naïf et il n'était pas non plus de mauvaise foi. Dans son récit de voyage, dans ses papiers, il recherche très précisément ce qui, pour la gomme arabique, pour l'indigo, pour toute une série de matériaux qui sont produits au Sénégal, pourraient être développés avantageusement pour le commerce de la Compagnie royale des Indes dont dépendait la concession du Sénégal. Donc il y a chez les botanistes, chez les scientifiques et les savants au XVIIIe siècle, une volonté très claire d'être utile au royaume de France et avant tout à la compagnie et de trouver des denrées qui pourront avantageusement être transformées et vendues aux autres pays européens. Donc là, il faut savoir qu'il y avait comme une sorte de collusion quand même entre l'Académie royale des sciences et la concession du Sénégal. Et j'en veux pour preuve le fait que Michel Adanson, ça aussi ça relève de l'histoire, a soigneusement évité de répondre aux appels pressants des Anglais qui souhaitaient qu'il donne des détails très précis sur ce qu'il avait pu découvrir, parce que les Anglais avaient une vue sur le Sénégal, sur Gorée, et ça a été avéré, puisqu'ils ont pris, quelques années après le voyage de Michel Adanson, ils ont pris Gorée et le fort de Saint-Louis. Donc, non, il n'était ni naïf, ni de mauvaise foi. Il faisait finalement ce qu'on attendait un peu de lui, c'est-à-dire, il le répète souvent d'ailleurs dans ses textes, être utile à la France.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Comment raconter notre histoire ? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui dans Histoire 2. Et dans la deuxième partie de notre émission, toujours en compagnie du chercheur et romancier David Diop, j'ai le plaisir d'être rejoint par deux de nos vaillants sociétaires. Il piaffait d'impatience derrière la vitre tout à l'heure. J'ai nommé Adila Benedjaizou, historienne, scénariste, documentariste, qui, dans ses films et ses créations sonores, aime mêler la grande histoire au destin individuel. Et Paulin Ismar, bonjour, historien de la Grèce antique et des étranges liens qui s'y nouent justement entre démocratie et esclavage, qui lui aussi vient d'ouvrir la porte de l'histoire en grand, puisqu'il vient de diriger avec Benedetta Rossi et Cécile Vidal un grand livre, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, avec une postface de Leonora Miano. Oui, Adila, je vous voyais piaffer parce que j'ai l'impression que vous n'y croyez pas à cette histoire. Vous vous posez la question, est-ce qu'on peut vraiment revenir de cette terre de la mort, comme le dit David Diop.
Effectivement, c'est vraiment la question que je me suis posée en lisant ce livre. L'histoire était belle, est-ce qu'elle était possible ? Je me le suis demandé. Eh bien oui, la réponse est oui. Il existe des esclaves qui ont franchi le passage du milieu et qui sont revenus en Afrique. En 1623, Pedro II, roi du Congo, écrit à Philippe II d'Espagne parce que plusieurs nobles Congo ont été capturés et envoyé en Amérique, alors qu'il est interdit de mettre en esclavage les sujets libres du royaume du Congo. Et bien que ces personnes aient déjà été envoyées dans des plantations, certaines d'entre elles sont retrouvées, mises sur des bateaux et ramenées au Congo. Alors, raconter un crime contre l'humanité du point de vue de ceux qui ont échappé dans les questions « comment peut-on raconter l'esclavage ?» Je pense qu'on ne va pas suivre cette piste-là, mais cette anecdote, elle me paraît très intéressante parce qu'elle raconte le rôle très ambivalent que les rois du Congo et d'autres souverains de la côte ouest de l'Afrique d'ailleurs, ont joué dans le commerce triangulaire. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois fourni des esclaves et protéger leur propre sujet de l'esclavage. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre roman, David Diop, c'est que Maram, elle n'est pas seulement un objet dans les mains des Français, elle est vendue par son propre oncle, qui est lui-même un notable. Et je voulais savoir si ça... Parce que c'est souvent difficile d'aborder cet aspect-là du rôle de certains Africains dans la traite négrière. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de raconter cet aspect-là de l'histoire ?
Non, ça n'a pas été difficile, parce que je trouve comme garant des historiens sénégalais qui ont vraiment fait des travaux à l'université Cheikh Diop de Dakar, et qui disent très clairement que, eh bien, pendant 4 siècles, l'esclavage n'aurait pas été possible si les élites n'avaient pas soutenu, d'une certaine manière, l'esclavage. Alors, évidemment, il y a un discours aussi qui est associé à celui que je viens d'énoncer. C'est l'idée que l'esclavage aussi est favorisé par les acheteurs, les Européens, qui, comme on peut le supposer, entretiennent des guerres entre les royaumes pour vendre des fusils et d'autres denrées, et en échange recevoir des esclaves. Donc, pour moi, ça n'a pas été compliqué de dire cela, parce que je ne m'inscris pas dans une polémique. J'écris simplement un roman, et j'ai l'impression que grâce à la fiction romanesque, je peux rentrer dans des nuances que si j'avais été polémiste ou que si j'avais été engagé dans un débat à trancher, je n'aurais pas pu avancer.
Ce roman, Paulin Ismar, c'est là sa force, il est vraiment contemporain, David Diop le dit, de l'historiographie, de celle que vous avez rassemblée dans ce grand livre, Les mondes de l'esclavage, et qui tente effectivement, de manière comparée, de manière globale, de saisir ce que fut la traite.
Oui, de ce point de vue, ce roman, il est précieux aussi pour les historiens, parce qu'il essaie de rendre sensible cette expérience de la traite, mais aussi du point de vue des sociétés africaines du XVIIIe siècle. Et il rencontre, hein, de ce point de vue, le travail des historiens, puisqu'aujourd'hui, les historiens qui travaillent sur la traite transatlantique travaillent évidemment étroitement avec les historiens des sociétés africaines. Non seulement pour étudier les ravages qu'a causé la traite atlantique au sein de sociétés africaines. On peut y prendre, enfin, d'abord et avant tout sur le plan démographique.
Parce on que peut ça, rappeler le c'est, grand c'est masse de très, chiffres. Très oui.
C'est 12,5 millions d'hommes et de femmes déportés sur une période de 4 siècles. Mais durant la période qui est celle du roman de David Diop, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est la période dans laquelle la traite transatlantique atteint son pic. Hein. Donc c'est des déportations absolument massives et qui ont eu un impact considérable sur la démographie du continent africain en général jusqu'au XXe siècle. Un historien américain, Patrick Manning, avait fait une évaluation qui est assez spéculative, mais dans laquelle il avançait que la population du continent africain au milieu du 19e siècle aurait été de 100 millions, c'est-à-dire le double de ce qu'elle a été, sans l'expérience de la traite.
Et vous dites que pour les historiennes et les historiens de profession, il y a un gain à fictionnaliser, à fabuler cette histoire. On pense évidemment au travail de Saïda Hartmann qui allie justement le voyage, un récit de voyage avec une sorte de voyage intérieur. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Paulin Ismar.
Oui, Saïda Hartmann, c'est à la fois une historienne et une théoricienne de la littérature qui a réfléchi à la façon dont on pouvait, par le recours à la fiction, rendre sensible et donner une voix à des personnages et des esclaves qui sont privés d'histoire et privés de voix en raison même de leur statut d'esclave. Et son idée, c'est ce qu'elle appelle la fabulation critique, c'est à la fois de pouvoir construire de la fiction pour leur rendre leur être et pouvoir de toute façon les faire exister à nos côtés, mais cette fabulation est toujours critique au sens où elle ne perd jamais de vue la difficulté pour celui qui écrit de précisément leur restituer cette voix. Donc elle rend aussi visible cette difficulté pour atteindre ces personnages.
Et ce voyage d'exploration vers la partie obscure d'elle-même qu'elle produit en même temps que le récit d'un voyage au Ghana sur les lieux de l'esclavage dans l'Osler Moser, qui va être bientôt traduit aux presses du réel, l'a fait dire ceci, David Diop, je voudrais savoir si vous vous reconnaissez dans cette profession. Je faisais moi aussi partie des témoins qui manquaient à l'appel. La prise en compte de ce dont j'avais hérité m'avait mené à ce cachot, mais à présent tout cela me paraissait hors de portée. On y est tous dans cette histoire.
Oui, moi j'ai visité la maison des esclaves à Gorée et j'ai tiré le titre de mon roman de ce que racontait un conservateur qui est disparu, qui s'appelle Joseph Ndiaye et qui appelait cette porte qui se découpe sur l'Atlantique et qui était apparemment prolongée par un ponton, la porte du voyage sans retour. Et c'est une expérience qui est assez terrible de s'imaginer le côté irrémédiable de ce passage. Alors c'est vrai qu'il y a eu, comme a dit Adila, des gens qui sont revenus, des esclaves qui sont revenus. Mais ce côté, si vous voulez, saisissant du lieu, peut vous transporter vous-même dans des situations passées par la force de l'imagination et vous toucher profondément.
Et puis Adila Benedjaizou, ça pose la question de savoir au fond, puisque ce monde de l'esclavage, c'est notre monde, c'est celui qui a façonné celui dans lequel nous vivons, nous nous sommes enrichis, nous sommes aussi formés, y compris d'ailleurs dans par la démocratie des Lumières, de qui descendons-nous ? Des esclaves ? Des esclavagistes ?
Alors ça, c'est une très excellente question, d'autant que si on se plonge un petit peu dans l'ouvrage de Paul Rismar, Les mondes de l'esclavage, ce que j'ai fait, moi par exemple, j'ai eu le plaisir de découvrir que peut-être dans ma famille, il y avait eu des marchands d'esclaves qui avaient traversé le Sahel pour vendre des êtres humains. Et en fait, on sort de ce livre en se disant, mais nous sommes tous des descendants d'esclavagistes, d'une manière ou d'une autre. On peut tous avoir eu dans notre famille quelqu'un qui aurait vendu l'ancêtre de quelqu'un d'autre, qui l'aurait vendu ou acheté. D'ailleurs, je pense qu'on devrait renommer votre livre le livre dont vous êtes l'esclavagiste. À ce détail près que, évidemment, on a beaucoup plus de chances d'être descendant d'esclavagistes quand on est nantais que quand on est dakarois.
Oui.
Et surtout, surtout, on n'est pas tous descendants d'esclaves.
Et c'est pour ça qu'il y a cette question, effectivement, aujourd'hui, d'une histoire militante qui reconnaît, qui nomme, qui date, qui localise. Et c'est important de dire ça parce que souvent on dit, ah ben oui, mais on n'en parle jamais, c'est pas connu, alors que en réalité, eh ben, on a des bases de données énormes. Vous êtes venu avec, dans votre besace, avec un site internet dont vous voulez nous parler, Adila Benedjaizou.
Tout à fait. Parce que, évidemment, c'est qui raconte l'esclavage et comment on peut le raconter, mais surtout, pourquoi on le raconte. Et c'est là que un site comme slavevoyage.org nous apporte quelque chose d'énorme. C'est un site qui est accessible à tous, qui est en anglais malheureusement, qui est l'aboutissement d'une collaboration de plusieurs dizaines d'années entre différents chercheurs, des web designers, des cartographes de trois continents. Il recense les données de bateaux négriers qui ont traversé l'Atlantique. Plus de 36 000 navires qui ont fait du commerce triangulaire pendant trois siècles. Le site recense les bateaux, leur nationalité, le nombre d'esclaves transportés, le nom des capitaines et le nom des propriétaires des bateaux. Pour le nom des esclaves, malheureusement, c'est évidemment beaucoup plus difficile, mais il y a quand même quelques données. On estime à 12,5 millions les personnes déportées, femmes et hommes, dans le commerce triangulaire. L'équipe de slavevoyage.org affirme qu'il documente 80% de ce trafic. C'est considérable. Il y a également des Français qui travaillent sur ce sujet. Il y a le site Indemnité et Esclavage qui recense les esclavagistes qui ont été indemnisés au moment de la deuxième abolition de l'esclavage, justement parce que on avait libéré leurs esclaves. Ce qui est intéressant, si on parle de réparation, c'est que au moment de cette abolition, on se pose la question, doit-on indemniser les anciens esclaves ou les esclavagistes? Le choix qui est fait, c'est d'indemniser ces esclavagistes. On trouve le nom de ces familles, les sommes qu'ils ont touchées, le nombre d'esclaves estimés qu'ils avaient sur ces sites indemnité et esclavage.
Donc c'est une histoire qui est beaucoup plus documentée qu'on le pense et qui est aussi documentée par un travail militant, ce qui est une manière aussi de rappeler qu'au fond, l'histoire savante, elle est parfois impulsée par les luttes de reconnaissance de la mémoire.
Il s'est passé quelque chose en France depuis 25 ans.
Depuis le 23 mai 1998 en particulier.
Voilà cette marche au cours de laquelle 40 000 Français, en grande partie originaires d'outre-mer, ont marché de la République à la nation pour faire entendre en métropole, à Paris, dans des lieux hautement symboliques, ce qu'avait été la mémoire de l'esclavage pour une partie des citoyens français. L'année après cette marche, s'est constituée une association assez exceptionnelle, le CM98, qui a monté un projet assez extraordinaire, hein, qui me fait penser à ce qu'évoquait à l'instant Adila. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, un groupe environ d'une cinquantaine de personnes, originaires de la Guadeloupe et de la Martinique, ont travaillé dans les archives, à la fois dans les archives nationales, les archives départementales de la Guadeloupe et de la Martinique, dans les archives nationales d'outre-mer, à Aix-en-Provence, pour reconstituer le nom de tous les anciens esclaves qui avaient été libérés après 1848, donc dans cette phase de 1848 aux années fin des années 1850, début des années 1860, en Guadeloupe et en Martinique. C'est-à-dire qu'ils ont dépouillé tous les registres de nouveaux libres de Guadeloupe ou les registres d'individualité en Martinique pour tout simplement donner le nom, retrouver un nom à nos parents, hein, ou nos aïeux esclaves, disait-il, qui retrouvaient leur patronyme au moment où ils quittaient leur statut d'esclave et devenaient véritablement libres. Et ils ont reconstitué comme ça une base de données de 150 000 noms qu'on peut consulter aujourd'hui sur le site qui s'appelle Enchoucage. Et ça a été un moment très très important pour la communauté antillaise, à la fois en métropole et puis aux Antilles elles-mêmes.
En vous écoutant, je comprends, et en vous lisant aussi, David Diop, que, au fond, cette histoire de transmission, qui finalement nous amène une histoire beaucoup mieux connue, beaucoup mieux documentée qu'on le pense, et qui est, au fond, comme le disait dans son vers célèbre René Char, notre héritage qui n'est précédé d'aucun testament, eh bien, c'est comme dans votre roman, David Diop, parce que ça commence comme ça, ça commence par des carnets de Michel Audençon, qui sont bien serrés dans un maroquin rouge, qui sont cachés à la vue de sa fille, Aglaé, mais cachés pour qu'elle les découvre. Et c'est une très belle scène que vous décrivez, la manière dont finalement on est dans une serre, et puis je vous cite, un petit déclic, comme si par un jeu subtil de menus ressorts, un mécanisme secret s'était enclenché. Est-ce que vous sentez que ce mécanisme secret, il est en train de s'enclencher dans la société française, David Diop ? C'est-à-dire cette histoire, elle devient enfin disponible pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour toute notre histoire.
Alors, je ne saurais pas, comment dire, assez autorisé pour dire une chose pareille. Ce que je peux dire simplement, c'est que dans le passage auquel vous vous référez, il y a comme une métaphore, l'idée que, eh bien, pour aller chercher cette histoire cachée, il faut faire un effort. Pourquoi ? Parce qu'elle risque de s'empoussiérer ou de se couvrir de poussière dans des tiroirs de l'histoire que personne n'ouvre. Alors j'ai l'impression, en effet, et le livre de Paulin semble l'indiquer, que des tiroirs sont ouverts. La question maintenant est de savoir qui va lire cette histoire, comment la faire lire, comment l'enseigner, et ça c'est une grande question.
Dans votre roman, David Diop, le tiroir dans lequel est préservé ce carnet, c'est celui de l'hibiscus, et c'est un signe secret pour sa fille. Pourquoi ?
Alors, parce que Michel Audençon est un botaniste, j'ai voulu que ce manuscrit secret qui raconte son voyage secret au Sénégal, eh bien, soit transmis à sa fille en vertu d'un lien qu'ils avaient, un lien mémoriel, c'est-à-dire leur visite au Jardin du Roi, où Michel Audençon avait ses entrées, hein, en réalité. Et la fleur de l'hibiscus, c'est une fleur indécise, c'est-à-dire qu'à la tombée de la nuit, quand on la représente, évidemment, sur un meuble, comme c'est le cas dans mon roman, on peut se demander si elle s'ouvre ou si elle se ferme. Et il y a une indécision qui me plaît dans cette fleur quand on la représente sur des planches de botanique.
Adila Benedraizou.
Pour reprendre la métaphore de l'hibiscus, il me semble que vous écrivez que c'est une fleur sans paupières.
Oui.
Donc, une fleur qui ne peut pas fermer les yeux ou qui ne peut plus fermer les yeux. C'est intéressant aussi du point de vue de l'usage qu'on peut faire de cette histoire.
C'est une image que j'ai... C'est un mot d'enfant, en fait. Michel Adanson se souvient que sa fille l'appelait la fleur sans paupières. Bon, voilà. Mais en effet... Le texte me dépasse, Adila, je n'avais pas pensé à cette idée et je la trouve vraiment très intéressante, l'idée qu'on ne peut plus fermer les yeux, ou en tout cas sa fille ne doit pas fermer les yeux sur cette histoire que lui raconte son père, une histoire douloureuse, une histoire secrète, mais une histoire qui va l'aider elle-même à grandir.
Indécise est la fleur de l'hibiscus, indécise également est d'une certaine manière notre relation à cette histoire, Paulin Ismar, et en particulier au rapport entre lumière et esclavagisme. On est parti de là, on peut y revenir. Vous avez amené pour éclairer notre débat, non pas un site internet, mais un roman, et le roman le plus scolaire qui soit, c'est Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Pourquoi ?
Parce que Bernardin de Saint-Pierre, alors on y pense beaucoup en lisant votre roman sur Michel Adanson, et vous connaissez très bien, évidemment, David Diop, vous avez écrit sur Bernardin de Saint-Pierre, et c'est un personnage qui concentre une grande partie de l'ambiguïté du discours oui. des Lumières sur l'esclavage. Et Bernardin de Saint-Pierre, comme Adanson, était un botaniste. On a redécouvert oui. récemment ses études de la nature, et... C'est un personnage quand même assez fascinant parce que c'est un des rares hommes des Lumières qui connaît vraiment très bien le monde colonial, qui a voyagé en Martinique et puis surtout qui a écrit son voyage à l'île de France, donc aujourd'hui l'île Maurice, qui est un document ethnographique exceptionnel dans lequel il y a une condamnation très violente de l'esclavage. Bernardin de Saint-Pierre est un vrai anti-esclavagiste. Alors, c'est pas tout à fait un abolitionniste, c'est un peu différent. Et là, il y a une ambiguïté. Et puis, il défend aussi le principe de la colonisation. Mais son voyage à l'Île-de-France, vraiment... propose une critique...
Qui date de 1773.
De 1773, une critique de ce qu'est l'esclavage assez extraordinaire et vibrante. Et ce qui est étonnant, en fait, d'une certaine façon, ce serait de relire Paul et Virginie,
1788.
Voilà, 15 ans plus tard, qui n'est pas seulement une bluette exotique et tropicale, un peu mièvre, et qu'on lit quand même de moins en moins, aussi parce qu'on sait pas très bien quoi faire de ce roman pastoral.
C'est un roman qui a fait pleurer l'Europe sur le sort des Noirs.
Bien sûr, mais en même temps, la description de l'esclavage dans Paul et Virginie, avec ces deux figures d'esclaves, Domingue et qui est Wolof, et Marie, qui est une esclave créole, c'est une représentation en même temps assez paternaliste de l'esclavage et qui contraste un peu avec le point de vue de Bernardin de Saint-Pierre dans le voyage à l'Île-de-France. On aurait envie, en fait, on suggérerait aux auditeurs de sa façon de lire les deux en même temps.
Et d'ailleurs, David Diop, j'ai plaisir pour terminer à citer un de vos travaux académiques, Rhétorique nègre au XVIIIe siècle, des récits de voyage à la littérature abolitionniste, paru chez Classique Garnier en 2018, en même temps que Frères d'armes, où vous abordez toutes ces questions, où vous écrivez, je cite, que justement Bernardin de Saint-Pierre, malgré toutes ses bonnes intentions pour prévenir les préjugés à l'encontre des nègres, eh bien finit par les reconduire, voire, je vous cite, les valider indirectement, parce qu'il ventriloque au fond ceux qu'il prétend défendre et il ne donne pas vraiment voix, et c'est peut-être ça que doit faire la littérature et l'histoire avec elle, voix à aux esclaves eux-mêmes.
Oui, alors il n'avait pas la possibilité de prendre la parole. Donc cette parole de Bernardin de Saint-Pierre, elle est tout à fait généreuse et pleine de bonnes intentions. Il y a aussi un homme des Lumières que j'admire beaucoup, c'est Diderot, qui est l'inspirateur des belles pages de la Bérénale contre l'esclavage et qui même sont le rédacteur de ces pages. Et on parlait tout à l'heure du siècle des Lumières. Il y avait en effet des philosophes qui avaient parfaitement conscience qu'il y avait un décalage très grand entre les idéaux des Lumières et l'esclavage de masse. Hein. C'est un pic à rappeler Paulin dans cette partie-là du XVIIIe siècle de la traite de l'esclavage, qui avait donc parfaitement conscience du caractère horrible de la traite. Donc Paul et Virginie, c'est un livre aussi qui a fait pleurer toute l'Europe sur le sort des esclaves, mais qui aussi s'adapte au public qu'il vise. Hein. C'est un public des salons. Il faut savoir aussi que les textes du XVIIIe siècle s'adressaient à des coteries et que finalement, ils énervaient le public une fois qu'une caution avait été donnée par des publics aristocratiques. Donc, peut-être que ce qui nous paraît absolument mièvre était considéré comme une attaque assez dure contre les planteurs. Bon, il y a cette référence au nègre Domingue et surtout à cette marronne, cette jeune fille qui va être amenée par Virginie à son maître et elle va dire à son maître de plus se comporter aussi mal. Ça nous paraît absolument étrange, mais c'est peut-être à l'époque où ça a été écrit, un message qui a été entendu et qui a été considéré comme non pas radical, mais assez fort.
Allez, on va faire comme vous dites, on va relire Paul et Virginie à la lumière de votre livre, David Diop, La porte du voyage sans retour, qui paraît au seuil. Merci, vous étiez en duplex avec nous depuis Pau. Merci David Diop.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Adila, merci Paulin. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestudia. Il y avait aujourd'hui à la technique Fabrice Desmaz. La semaine prochaine, nous parlerons de l'histoire des vaccins et de la vaccination avec l'historien Guillaume Lachenal. Bon dimanche sur France Inter.